Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, dans Musique traditionnelle, nous avons la joie d'accueillir à nouveau Martin Coudroy qui nous parlera depuis la Bretagne. Bonjour Martin.
Bonjour Mathilde.
Et nous avons ici dans les studios Armand Gall qui continue à être notre fidèle technicien.
Bonjour tout le monde.
Alors je vais commencer tout de suite l'émission avec un morceau que nous a choisi Martin et que je lui laisserai présenter par la suite.
Yon polun mek dar odu Knari hessen o bakari sku Yon polun mek dar odu Knari hessen o bakari sku Des kablimat o tion polo Des kablimat o tion polo Yon polun mek dar odun Knari hessen Bakariskun Yon polun mek dar odun Knari hessen o bakariskun Deskablimat o tion polun Deskablimat o tion polun Yon polun mek dar odun Knari hessen o bakariskun Yon polun mek dar odun Knari hessen o bakariskun Deskablimat o tion polun Deskablimat o tion polun
Le spectacle de Nils Holgersson interprété par Martin Coudroy et Eleonore Billy. Alors, Martin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce spectacle? Et puis, en plus, on vous entend parler en suédois, là. Enfin, chanter en suédois.
Oui, alors là, effectivement, c'est une chanson issue d'un spectacle qu'on a monté avec Eleonore Billy, qui est une collègue musicienne qui a vécu, elle aussi, en Suède. Et donc, c'est tiré d'un livre qui s'appelle « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède », écrit par Selma Lagerlöf, grande écrivaine, premier prix Nobel féminin. Ça décrit l'histoire d'un petit garçon paresseux qui passe son temps à faire des bêtises et qui se retrouve rétréci par un tomteux, un petit troll. Et qui finit par suivre la migration des oies jusqu'au nord de la Suède sur le dos du jar de la ferme. Et voilà, c'est un grand voyage initiatique qui est aussi prétexte à parler de la culture, des paysages et de la musique et des danses suédoises.
Donc, c'est un très, très très beau livre hein, qui est destiné aux enfants, mais qui se lit très très bien adulte aussi.
Ouais, mais d'ailleurs c'est quand même un pavé. Hein.
Il y a
de quoi lire. Ouais.
Oui. Et alors il me semble que je pense que c'était dans les années 70-75, il y avait un dessin animé.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans la quarantaine ont cette référence-là. Le dessin animé, ouais, ça doit être un dessin animé japonais, je pense, qui a été fait.
Oui, disons que je dirais que les gens qui sont un peu plus âgés que. Qui sont dans les 40-45 s'en rappellent, alors que les suivants plus, parce que le dessin animé n'est plus passé.
Mais c'est vrai que c'est quand même une histoire qui parle à beaucoup de générations, en fait. Quand pour l'avoir, c'est un spectacle qu'on a énormément joué. Et qui parle beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont un lien avec cette histoire.
Alors, est-ce qu'en Suède, c'est encore une histoire qui est très présente chez les enfants aujourd'hui ?
Ah oui, bien sûr. Oui. En fait, Selma Lagerlöf, c'est quand même une écrivaine qui a du poids encore maintenant en Suède et qui a écrit beaucoup de choses aussi à destination des adultes. En fait, ce livre-là, c'était une... En fait, cette dame était institutrice. Et donc, le gouvernement suédois lui a fait une commande de faire un livre de géographie, sociologie pour les enfants, mais de manière romancée, en fait, pour amener le plus grand nombre à lire et à connaître l'histoire et la géographie de la Suède. Donc, elle a écrit ce livre-là qui est, en fait, toujours utilisé, étudié en cours là-bas. Et il y a de nombreuses adaptations de spectacles, de théâtre. En Suède, qui sont toujours...
D'actualité.
Voilà.
Eh bien, ça me donne envie de le relire, ce livre, parce que je pense que ça fait 20 ans que je ne l'ai pas lu, mais il est toujours dans ma bibliothèque et je pense que je vais y refaire un tour. Alors, Martin, pouvez-vous nous expliquer votre passage en Suède ? Comment s'est arrivée cette idée d'aller en Suède et ce que vous y aviez étudié là-bas ?
Oui, donc j'ai d'abord fait des stages en France pour apprendre la musique suédoise et puis trouver une discographie un peu pour apprendre cette musique. Mais au bout d'un moment, il me manquait quelque chose, en fait. Alors je suis parti en Suède avec une bande de copains bretons pour faire un premier séjour, là, un camp ethno, une rencontre de jeunes musiciens du monde entier. Et on s'échange nos musiques. Donc, ça m'a permis de vivre un peu le climat suédois. Et ça m'a donné envie d'y revenir. Et là, j'étais en contact avec Jean-Pierre Hivert, qui est un accordéoniste français, qui, lui, est parti dans les années 80 vivre en Suède pour apprendre cette musique, et qui m'a conseillé un lieu dans l'ouest de la Suède, une université populaire tournée autour des danses et musiques suédoises, où on fait de la musique et de la danse 24/24, quasiment. Enfin, c'est une année scolaire, en fait, avec 5 jours de cours par semaine. Alors il y a un cours de danse, un cours de chant, un cours de violon, et tout ça dans le même lieu, donc ça permet plein d'échanges, et c'est assez riche. Et donc pour moi ça avait du sens de partir vivre là-bas pour donner du sens à la musique, pour comprendre la musique dans son contexte, apprendre à parler la langue, connaître, vivre un peu cette culture, en fait. Et donc ça c'était en 2006-2007. Et au cours de cette année, dès que j'avais un temps libre, le week-end, je partais dans des festivals. J'ai vraiment vécu à fond tout ce que je pouvais.
Mettre tout à profit, quoi. Oui,
écouter tous les disques qu'ils me trouvaient sous la main. J'ai vraiment joué le jeu à fond. J'étais vraiment passionné, quoi. Et puis j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles rencontres de musique, de danse, de rencontres humaines aussi. De rencontre avec le ski, j'ai jamais fait de ski. Ah, j'ai fait du ski sur des lacs gelés, enfin voilà, des choses.
Ah, et le bruit que ça fait, les lacs gelés, c'est incroyable.
Oui, ça craque.
Oui, ça fait. Au début, on n'est quand même pas super rassuré, mais bon. Après tout, si les Suédois y vont.
Voilà, on était en général bien entourés. Et voilà, du coup, de là est né tout un tas de projets musicaux, en fait, en rentrant en France. Mais je me suis retrouvé à faire plein de projets de musique, de spectacles autour de ce répertoire-là, de beaucoup d'ateliers de danse aussi. Donc on a beaucoup enseigné la polska et d'autres danses suédoises. Et donc c'est aussi à cette occasion que j'ai rencontré Lena Jonsson, qui est une violoniste suédoise incroyable, très douée, avec qui je me suis beaucoup entendu et avec qui... Dès le départ, la musique était très simple, très joyeuse, très beaucoup dans le jeu. Et c'est ça qui nous a amené à avoir envie de jouer ensemble. Et très vite, en fait, quand on a joué ensemble, d'abord on est parti sur du répertoire suédois, parce qu'on était là-bas. Et puis assez vite, on s'est retrouvés tous les deux à être plutôt dans une relation de bœuf, et où moi je lui jouais des musiques de par chez moi, de Bretagne ou de France, et elle jouait ses musiques à elle. Et puis on s'est rendu compte rapidement qu'on trouvait des connexions et que c'était assez amusant en fait à faire. Et donc là, on a fait par exemple un jour, je vais jouer une bourrée d'Auvergne, une bourrée de trois temps, qui est du répertoire plutôt de violon aussi. Et là, quand elle a entendu ça, tout de suite, ça lui a fait penser à une polska que son père lui jouait quand elle était jeune. Et donc, on a essayé d'arranger ces deux musiques ensemble. Et en fait, on s'est même mis carrément à les jouer l'une en même temps que l'autre, l'une étant la première voix de l'autre ou inversement.
Ah, génial. Donc, très bonne idée.
Voilà, c'était le début de notre collaboration.
Et donc, du coup, c'est ça qu'on va écouter là juste après.
Exactement.
Parce que j'ai entendu ça tout à l'heure et ça m'a beaucoup plu.
Voilà, donc tout le jeu est de deviner où est la polska et où est la bourrée.
Ça marche. Alors Armand, on va voir si vous avez suivi. C'est laquelle la polska et c'est laquelle la bourrée ?
En premier, c'était la polska et après la bourrée ?
Oui, est-ce que je vous aurais soufflé ça ?
Oui, bien sûr, vous me l'avez dit à l'antenne. Enfin, hors antenne plutôt, pendant la pause.
Bon, j'ai un peu triché parce que je connais le morceau en même temps. Hein, mais je trouve que l'idée de faire les deux à la fois est une très bonne idée, Martin.
Bah, c'est vraiment le plaisir aussi de jouer avec toutes ces matières et d'en faire quelque chose de vivant. En fait, c'est souvent l'approche qu'ont beaucoup de musiciens qui s'approprient le répertoire de musique traditionnelle. En fait, on travaille sur un matériel existant qui s'est transmis de génération en génération ou qu'on retrouve, qu'on exhume d'un collectage. Et puis, il faut le faire vivre, il faut en faire quelque chose. Et donc, il y a plein de manières de lui donner une vie, un éclairage à soi. Et une des manières, c'est de le faire rencontrer un autre répertoire, une autre énergie qui a avec des grandes différences et puis aussi des liens, en fait. Je trouve que moi, j'ai toujours vu beaucoup de liens entre les musiques de violon du Centre-France et les musiques de violon de certains répertoires suédois.
Oui, ça m'étonne pas au niveau du coup d'archet ou du grain qu'on met dans le.
Ouais, quelque chose dans le son et
dans le son. Alors c'est marrant parce que justement quand j'écoutais ce morceau tout à l'heure, bon, j'ai reconnu la bourrée, mais c'est pas du tout comme je la joue et j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'ai été un peu déstabilisée au niveau de l'accent et tout ça. Et c'est bien parce que ça me sort justement de ce que j'ai l'habitude d'entendre ou l'habitude de jouer. Bravo Léna, merci.
Ben oui, là, c'est jouer avec l'accent suédois, quoi.
C'est ça qui est génial. C'est génial. C'est justement l'intérêt. Et je vois que au cours de votre parcours, vous faites souvent ça de mélanger le suédois et le breton, le suédois, le centre France. Enfin, de pas avoir peur de faire les deux ensemble.
Ben ça a été, en tout cas, ouais, à nos débuts avec Léna, ça a été un peu notre marque de fabrique et notre jeu de mêler, d'emmêler, de démêler, de brouiller les pistes, de se retrouver, de se perdre, de créer des ponts. On a beaucoup travaillé là-dessus. Après, voilà, on a aussi exploré d'autres pistes. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup nourri et beaucoup amusé, en fait, aussi. Je trouve que la dimension de jeu et de se faire plaisir, surtout dans une formule en duo, en fait. J'aime beaucoup jouer en duo parce que ça permet ça, en fait. Ça permet de se laisser surprendre, voilà, on se connaît quand même beaucoup, on a pas mal d'heures de musique au compteur tous les deux, et le fait d'être à deux, ça permet de, bah voilà, de pas suivre un canevas forcément tracé à l'avance et de se laisser surprendre par l'instant, quoi. Et la musique, c'est quand même une poésie du moment, quoi.
Alors, Léna, en ce moment, elle vit en France ou elle vit en Suède ? Vous vous retrouvez pour...
Elle vit en Suède, en fait. Elle a vécu en France pendant 3 mois. Elle a fait un petit séjour à Rennes. Mais sinon, elle a toujours vécu... On a toujours vécu loin l'un de l'autre. On a toujours travaillé voilà, en se retrouvant pour faire des moments vraiment de travail... autour de nos répertoires, quoi.
Oui, donc du coup, vous vous retrouvez pour les concerts, les répétitions. C'est intéressant parce que moi, j'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup tourné. Donc ça veut dire que ça peut marcher quand même, même malgré la distance.
Ah ben oui, c'est sûr que là, on n'est pas dans une relation de musiciens qui habitent au même endroit, qui avons grandi avec une musique du même style. Et qui se retrouvons tous les mardis pour répéter. On est dans autre chose, mais moi, j'aime bien cette relation-là. En fait, j'ai souvent besoin de spontanéité et de temps pour digérer les choses. Du coup, ça permet d'avoir beaucoup de temps pour s'immerger dans quelque chose. On se retrouve souvent à 10 jours, 2 semaines, et puis après, on se voit pas pendant un mois. Ça permet de retravailler les choses, de laisser le temps de décanter, et puis au bout d'un mois, on se retrouve. Et hop, ça, les choses avancent, quoi.
Ça laisse infuser.
C'est ça.
Et parce que, alors, le dernier morceau que vous avez choisi pour terminer ces 3 épisodes, d'ailleurs, et merci beaucoup, hein, parce que c'est court, mais en même temps, c'est bien qu'on vous ait eu à la radio, c'est avec toujours Aurélien Tange. Et Aurélien Tange, il n'habite pas non plus à 10 minutes de chez vous, hein.
Non, c'est vrai qu'on a à peu près le même fonctionnement avec Aurélien qui habite un peu plus près, mais quand même 600 km nous séparent.
Oui.
Donc, voilà, on se retrouve aussi à l'occasion d'un travail sur un nouveau répertoire. On se retrouve pendant une semaine chez l'un, chez l'autre. Parfois, ça arrive qu'on commence des morceaux, je lui envoie un nouveau morceau et puis... il le travaille de son côté, et puis hop, on se fait juste 1 ou 2 heures pour le jouer, et puis on le joue tout de suite en public. Ça, c'est quelque chose qui parfois marche assez bien.
Oui, c'est aussi parce que vous avez l'habitude de jouer ensemble.
Oui, bien sûr.
C'est le genre de choses où, avec des musiciens, je dirais des relations privilégiées, où ça marche, et donc du coup, on peut se permettre de faire ça. On peut se permettre de faire ça.
Il y a parfois des plantades, mais parfois ça donne de belles choses, quoi, du coup.
Tout à fait. Alors ce dernier morceau, j'avoue que je l'apprécie tout particulièrement. La Sourde, vous avez enregistré ça dans une péniche en plus, si je me souviens bien.
Alors là, oui, alors cet enregistrement, oui, effectivement, en fait, ce disque qui s'appelle Hemma, en fait, Hemma, ça veut dire à la maison, en suédois. Et avec Aurélien, on avait envie de jouer pour des gens, de ne pas être enfermé dans un studio, de vraiment que ce soit de la musique vivante. Mais on avait envie aussi de quelque chose d'un peu cocon. Donc on a organisé toute une série de concerts chez des amis.
Chez Aurélie, hein.
Et donc notamment Aurélie Gier, voilà, avec qui on partage de la musique et de la danse beaucoup. Et qui habitait à cette époque dans une péniche. Donc on a enregistré dans sa péniche. Et on a enregistré chez un autre ami musicien qui lui aussi habitait dans une péniche. Donc il y a deux, il y a plusieurs sources mélangées pour le disque, mais dont deux péniches.
Alors c'est parti, on va écouter.
Thank you.
C'était le duo Tange Coudroy, La Sourde. On peut trouver ce morceau sur le CD Emma, c'est bien ça, que c'est comme ça qu'on le prononce, Martin ?
Exactement.
Voilà. Je précise pour dire que tous les CD, tous les liens, toutes les présentations seront mises sur le podcast par Armand, n'est-ce pas Armand ?
Oui Mathilde, bien sûr.
Et que vous pourrez donc trouver les références pour pouvoir acheter ou commander les CD à Martin ou à les agences qui vendent les CD de Martin. Merci beaucoup Martin pour ces 3 émissions. Nous avons eu du mal à nous rencontrer, mais c'est fait.
On l'a fait. Merci Mathilde.
Et c'était un plaisir de vous recevoir ici.
Un plaisir partagé.
Merci beaucoup Armand et à bientôt tout le monde.
De rien, à bientôt.
Au revoir, à bientôt.
C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.